Neptune FM sur la côte vendéenne. Neptune FM. Il est 21h. Neptune FM. Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Make Up. On parlera aussi de trois mangas des éditions Akata. On aura la chronique du volume 16 de Bienvenue au Club, la chronique du volume 3 de Journal d'une fangirl et la présentation de Desperate Oscat & Co. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On parlera culture avec un petit tampon rouge au Japon qui empêchait certains de télétravailler pendant leur période d'état d'urgence. On aura ensuite une petite actualité au Japon avec des scientifiques qui sont en quête du câlin idéal pour les bébés. Voilà. Et on finira avec une petite news musicale un petit peu triste puisque Ryuichi Ogata quitte le groupe Wings. Voilà, alors on va commencer avec la première chanson de l'émission, c'est Warning Shot Factory Mix de Lee So-hoon et on reviendra juste après pour parler du groupe Make Up.
I'm the maniac psycho. We'll be right back.
Donc c'était Lee So-hoon avec la chanson Warning Shot, la version Factory Mix. On passe maintenant à la présentation du groupe Make Up. Alors, c'est un groupe japonais de hard rock, heavy metal et rock qui a fait ses débuts en 1983 et qui s'est séparé en 2010. Il se composait de 4 membres, on avait N.O.B. au chant de 1983 à 2010, Ikeda Yasuyoshi à la basse de 1983 à 1987, Kono Yugo au clavier de 1983 à 2010 et Matsuzawa Hiroaki qui était compositeur et guitariste de 1983 à 2010. Hiroaki Matsuzawa crée le groupe en 1977, mais c'est seulement en 1983 que le groupe se stabilise avec l'entrée de nouveaux membres. On compte donc Nobuo Yamada au chant, Hiroaki Matsuzawa à la guitare, Yogo Kuno au clavier, Yasuyoshi Ikeda à la basse et Yoshihiro Toyokawa à la batterie. La même année, Nobuo Yamada et Hiroaki Matsuzawa participent à l'album solo du batteur de Loudness, Munetaka Iguchi. Puis Nobuo Yamada est invité avec le guitariste Akira Takasaki et le bassiste Masayoshi Yamashita de Loudness par le groupe Mont Fuji à participer à leur album Human Transport. Le 1er avril 1984, ils sortent leur premier album où l'on retrouve la chanson Salvation Army, la chanson la plus célèbre du groupe. Le groupe s'est toujours caractérisé par ses musiques mélodiques, son jeu impeccable et son style propre, qui n'a jusqu'à aujourd'hui eu aucun égal au Japon. En septembre 1986, le groupe prend une pause après avoir été appelé pour interpréter la chanson Pegasus Fantasy, qui sert de générique d'ouverture à l'anime Senseiya. Ils sortent ensuite un album composé des chansons qu'ils ont jouées pour cet anime, le Senseiya Hit 1. Le 21 juillet 1989, le groupe sort une compilation avec les musiques les plus célèbres de sa carrière. Après cela, ils ne chantent plus pour aucun anime et délaissent leur son hard rock, chaque membre partant alors de son côté. Peu de temps après, Nobuo Yamada forme un groupe avec le claviériste Yogo Kono, appelé Grand Prix. En 1993, ils sortent un album composé de grands succès de make-up, mais aussi de grands prix. L'année suivante, en 1994, Nobuo poursuit sa carrière en solo. En 1996, make-up se réunit à nouveau pour sortir un nouvel album pour l'anime Senseiya. En 1998, Nobuo Yamada forme un groupe appelé P.I.F. avec le guitariste Tomoaki Ishizuka, alias Pata, un ex-membre de X Japan. Le groupe ensuite connaît diverses formations et seuls Nobuo et Pata restent jusqu'au bout dans le groupe. D'autres membres du groupe continuèrent aussi une carrière dans la musique, comme le guitariste Hiroaki Matsuzawa qui est entré dans le groupe Flying Sky, puis dans le groupe Dragonfly. On a le batteur Yoshihiro Toyokawa qui est entré dans le groupe Golden Bat, puis dans le groupe Grand Slam et ensuite dans le groupe TFJ. Et le claviériste Yogo Kono qui est entré dans le groupe Tokyo Naniwa Carp et qui participe depuis 2000 au groupe Gen Project en tant que claviériste et guitariste. Le 26 décembre 2002, ils sont appelés pour jouer au festival Hard Rock Summit aux côtés d'autres groupes célèbres du hard rock et du heavy metal japonais. En 2003, ils chantent à nouveau pour l'anime Senseiya, la chanson de fin du film Prolongement du Ciel, ainsi que la chanson Never. En 2003, Nobuo Yamada rejoint le groupe Osamu Metal 80s, formé par le batteur Osamu Fuji aux côtés d'autres célébrités du métal japonais. Voilà, donc après, ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont juste participé à quelques trucs, mais sinon, le groupe n'était pas vraiment actif. Alors, côté discographie, on a un total de 5 albums, le premier Howling Wheel, qui est sorti le 1er avril 1984, et le dernier Pegasus Fantasy version Omega, qui est sorti le 11 juillet 2012. On a aussi 3 best albums, le premier Glory Days Makeup Best Collection, qui est sorti le 1er août 1989, et Makeup 18th Anniversary Memories of Blue, qui est sorti le 1er décembre 2004. On a 3 singles, le premier Fox on the Run, qui est sorti le 21 octobre 1984, et le dernier Get the Hero, qui est sorti le 21 septembre 1986. On a aussi un vinyle, Pegasus Fantasy A&M Blue, qui est sorti le 21 octobre 1986. Ils ont participé à 35 OST. Donc plusieurs OST pour Senseiya bien sûr. La première étant sortie en 1986. On a aussi les OST de Tenso Sentai Ghost Eiger, la première qui est sortie en 2010. On a Senseiya Beyond the Limit en 2011, Senseiya Omega en 2012 et Nostalgic Minna Sokidata 80 no Anime Song qui est sortie en 2018. Et pour finir, ils ont interprété 5 génériques d'animés. Donc Pegasus Fantasy et Blue Forever pour Senseiya, Kazeninale pour X-Driver, Never Seitochi Seiya no Theme pour Senseiya Tenkai N Josso Ouverture, et Pegasus Fantasy version Omega pour Senseiya Omega. Et comme on aime tous Pegasus Fantasy, ben on va pouvoir s'écouter les deux versions. On commence par la toute première, la vieille, donc, qui a servi de premier ending pour l'anime Senseiya. Donc Pegasus Fantasy interprété par Makeup. Et on viendra juste après pour parler du volume 16 de Bienvenue au Club.
Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
「燃やせ傷」
Voilà, donc c'était Pegasus Fantasy, la version Omega de Make Up en featuring avec Nakagawa Shoko qui a servi de premier opening pour l'anime Saint Seiya Omega. On passe maintenant à la chronique du volume 16 de Bienvenue au Club. Alors, je rappelle que c'est un shoujo de genre romance, vie scolaire, tranche de vie qui a été écrit par Asada Niki et prépublié dans le Princess. La version japonaise est parue aux éditions Akita Shoten avec un total de 16 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Akata dans leur collection principale avec également 16 tomes. Donc ce volume 16 est paru le 29 août 2019 au prix de 6,99€. Alors, le résumé de ce tome, les derniers sont les premiers et si Okinoshima et Nima semblent désormais filer le parfait amour, ils ne sont pas les seuls membres du club d'études de la psychologie des jeunes. Qu'adviendra-t-il de Yoriko et Inomisaki ou même de la têtue Kana qui, sous ses faux airs de peste, cache un cœur fragile ou pas? Un ultime volume pour faire nos adieux à ces personnages si attachants, à la bonne humeur contagieuse. Donc l'histoire principale de Bienvenue au Club s'est achevée dans le volume précédent. La relation de couple de Nima et Oki a pu se renforcer, l'amitié liant les nombreux personnages aussi. Mais en dehors de notre couple vedette, qu'en est-il des autres relations amoureuses en stand-by dans la série? Cet ultime opus de la série, qu'il faut voir un peu comme un long épilogue, se propose de répondre partiellement à cette question, mais pas que. Sont donc au programme ici 5 chapitres extra, dont les 3 premiers remettent en avant 2 adolescentes auxquelles on s'est beaucoup attaché au fil de l'œuvre et dont les sentiments restent inassouvis, Yoriko, notre chère présidente du club, et Kana, la fausse peste cinglante au grand cœur. Dans les 2 premiers chapitres, voici Yoriko face à une bien étrange situation, une lettre de déclaration d'amour anonyme trouvée dans son casier. La blondinette choisit de n'en faire aucun cas, désormais elle veut se consacrer entièrement à ses recherches pour le club, pour tenter d'oublier définitivement ses sentiments pour Seri, qu'elle voit comme une sorte de moment d'égarement. Mais quand Seri se remet à lui tourner autour pour des raisons mystérieuses, que va-t-il se passer? D'où vient la lettre? Qu'est-ce qui se cache derrière elle? Concrètement, la réponse concernant l'émissaire de la lettre et ses raisons ne surprend aucunement, mais ce n'est clairement pas ce que Nikki Asada veut le plus mettre en valeur. Cette petite affaire classique n'est qu'un prétexte pour remettre en lumière les personnages principaux de ce passage. Yoriko, fidèle à elle-même, qui cherche à se mentir et qui est aussi amusante que touchante dans ce qu'elle cache à Seri. Puis Seri, qui derrière son comportement peu sérieux, montre à nouveau ses bons côtés en veillant sur la jeune fille à sa manière. Enfin, il ne faut pas oublier Nima, particulièrement drôle dans sa manière d'essayer de veiller sur son amie elle aussi, et en même temps touchante pour la sincérité qu'elle dégage dans cette amitié. Qui plus est, Asada tourne très bien certains moments, notamment l'instant où Seri peut observer la vraie Yoriko à travers le film. Dans le troisième chapitre, c'est Kana qui est à l'honneur, la populaire jeune fille passant toujours pour une peste auprès de certains. Mais Nima et les lecteurs savent désormais très bien que derrière cette façade se cache une adolescente au bon fond, et surtout fragile, dans son amour inassouvi pour son amie d'enfance, Daisuke. Accompagnée d'une Nima toujours vive et bienveillante, même si maladroite et rigolote, l'adolescente saura-t-elle profiter d'un petit problème de bouton décousu pour enfin être sincère avec Daisuke? Le temps d'un chapitre, Asada croque très bien Kana jusqu'au bout, dans son mélange d'assurance et d'incertitude. Comment pourrait-elle avouer son amour à celui qui a toujours été là pour elle? Après tout, ce serait prendre le risque de briser la relation exclusive qu'ils ont depuis l'enfance. Fidèle à elle-même, la mangaka dépeint tout ceci avec la sincérité et la bienveillance qu'on lui connaît, pour un résultat peut-être un peu rapide, mais joli et satisfaisant. Tandis que ces trois premiers chapitres laissent malicieusement la voie ouverte à des évolutions sentimentales, les deux derniers chapitres, eux, font dans un autre style. Centrés sur la recherche de Ikawa et des membres du club d'animé de quelqu'un sachant suffisamment bien danser pour un concours de cosplay, le chapitre 4 passe en revue vite fait plusieurs visages de façon globalement humoristique, mais sans non plus apporter d'avancées ou de points de chute concrets concernant la plupart des visages secondaires entreaperçus. Dès lors, il est dommage que des personnages sympathiques comme Ikawa lui-même, Saori, Nita ou même Rea et Shobara, qui sont oubliés, ne soient pas aussi en vue que Yoriko, Kana, Seri et Daisuke lors des chapitres précédents. Néanmoins, la chute de cette histoire est très bonne car elle montre à nouveau la jolie relation qui noue toute cette petite communauté. Pour le chapitre 5, le constat est un peu le même. Le sujet de l'anniversaire de Nima est classique et joue sur des petits rebondissements basiques. Mais le tout est très bien pour souligner une dernière fois la valeur des relations amoureuses et amicales qui se sont construites au fil de la série. Résultat, un dernier volume dans l'ensemble très plaisant à suivre et offrant un dernier baroud d'honneur à cette ribambelle de jeunes attachants. Il s'agit en quelque sorte d'un long et bel épilogue, nous laissant le temps de dire au revoir à la plupart de ces visages. Après ça, on n'a qu'une envie, revoir un jour Nikki Asada en France, son style humoristique, énergique et doux, ne manquant pas de charme, tout comme ses personnages et leurs liens. Voilà, donc bienvenue au club, à retrouver aux éditions Akata en 16 tomes. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, Twilight Mantero de Like Absolute Myself, et on viendra juste après pour la chronique du volume 3 de Journal d'une Fangirl.
Come on.
c'était Like Absolute Myself avec la chanson Twilight Mantero. On passe maintenant à la chronique du volume 3 de Journal d'une Fangirl. Donc je rappelle que c'est un shoujo de genre romance tranche de vie qui a été écrit par Uno Sanae et pré-publié dans le Princess. La version japonaise est parue aux éditions Akita Shoten avec un total de 3 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Akata avec également 3 tomes. Donc ce volume 3 est sorti le 28 août 2014 au prix de 6,95€. Le résumé de ce tome, Sakurako est perdue. Elle, qui n'a toujours vécu que par procuration à travers ses boys love favoris, sort désormais avec Ritsu, l'un des deux auteurs de manga pour qui elle travaille. Mais alors, pourquoi son cœur est-il troublé ? Pour ne rien arranger, Yori, sa meilleure amie et confidente de toujours, refuse de lui adresser la parole sans qu'elle n'en comprenne les raisons. Aussi, c'est un peu désabusé qu'un soir, elle se rend au travail. Elle trouve alors un mystérieux papier sur lequel il est question d'un mystérieux projet. Et si, depuis le début, la jeune lycéenne avait été dupée ? Peu à peu, le quotidien de Sakurako s'effrite et sera-t-elle assez forte pour supporter ce terrible retour à la réalité ? Sakurako vit mal le fait que Yori l'ignore complètement et lui tourne le dos. Malgré cela, elle ne veut pas arrêter son travail auprès de Masa et Ritsu. Donc un soir, elle retourne chez eux et tombe sur un document évoquant le fameux projet « Comment une fangirl tombe amoureuse ». Le voile se lève sur la manipulation qu'a subie Sakurako. Comment va-t-elle réagir face à cette révélation ? Pardonnera-t-elle ou coupera-t-elle court à sa relation avec ses auteurs préférés ? Sakurako doit affronter dans ce dernier tome beaucoup d'épreuves. Donc, tout d'abord, elle se sent complètement démunie face aux réactions de sa meilleure amie. Elle ne sait pas quoi faire pour arranger les choses entre elles. Mais elle doit en plus affronter la terrible vérité. Masa, lui qui était si discret, a volontairement laissé traîner une feuille de script pour tout révéler à Sakurako. Ses propos sont blessants et Sakurako ne peut que se rendre compte qu'elle a été bernée et manipulée. Et même si Yori en voulait à Sakurako de par son comportement, elle ne pourra pas rester indifférente à sa détresse. Dans ce dernier tome, l'auteur veut malgré tout donner une fin à son histoire et c'est donc une lecture riche en rebondissements et en révélations que nous avons là. Malgré tout ce que subit Sakurako, quand l'oncle de Ritsu vient lui demander de l'aide, elle le fera parce que cela concerne Masa. Et ce sera également l'occasion pour notre fangirl de prendre conscience de ce qu'elle recherchait dans la lecture de ses boys love, mais aussi de ce qu'elle ressent pour l'un de ces hommes qui est entré dans sa vie. Concernant sa vie familiale, elle réalisera également que tous ses efforts pour protéger sa mère étaient finalement vains, que sa mère n'a pas besoin d'avoir une fille parfaite, car l'amour d'une mère est inébranlable. Par contre, un lien provenant du passé surgit entre Masa, Ritsu et Sakurako, donc il est dommage que l'auteur ait attendu ce dernier tome pour en parler. Nous aurions aimé voir ce détail plus tôt pour éviter de nous donner la sensation d'un élément ajouté à la va-vite. Quant à l'édition, on note encore quelques petites fautes d'orthographe. Quoi qu'il en soit, Journal d'une Fangirl s'achève avec un final riche en rebondissements et en révélations. Voir Sakurako prendre conscience de ses premiers sentiments amoureux est touchant. Le seul regret qu'on aura, c'est que cette série se soit achevée si rapidement. Voilà, donc Journal d'une Fangirl à retrouver en 3 tomes aux éditions Akata. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, Luatman Kwa de Lil Knight en featuring avec PA. Et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
Vì cách mà họ luôn muốn phủ nhận để chiếm hữu em. Bên em sao những mưa tiền và để dầu chìm vào lãng quên. Không còn một sự đồng cảm nào, một vòng tay để ngăn nước mắt em để rơi. No, sao em lại vô tình quên?
Không ai có thể sống ngược với dây chuyền chiều kim đồng hồ. Nơi nào em đi khi trên mây nước mắt rơi đã cạn khô. Em rớt xuống bờ vực thẳm, đưa đôi tay mong sự giúp đỡ. Nữ hoàng của màn đêm bây giờ cũng đã có lúc phải rơi lệ rồi đó. Nụ cười của em đâu rồi? Nhạt nhòa những cái dấu son môi, xoay gây cắn chặt đầu ngón tay với một mái tóc rũ rượi. Bấm mê số này để số căng mà không có một số nào kết nối. Em đứng đợi ai trong mưa? Ai trong khi mưa? Màn đêm đang mơ hồ. Không có một sự đồng cảm nào, một vòng tay để ngăn nước mắt em đi rơi.
C'était Lil Knight avec la chanson Luat Nuan Chua en featuring avec PA. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc aujourd'hui, lundi 15 juin, chez Hot Manga, on a eu la sortie du volume 1 de Je pense à toi, le volume 1 de Ne te retourne pas, le volume 1 de Sukuiki et le volume 1 de Yurisis, chronique NTR des sœurs Sakura Miya, c'est ça. Alors, pour mercredi 17 juin, aux éditions Glénat, on aura la sortie du volume 6 de Ariane, l'Empire Céleste, le volume 10 de L'Ère des Cristaux, le volume 2 du Chat aux 7 vies, le volume 11 du Paradis des Chiens, le volume 1 de Shadows House, le volume 2 de Shadows House, voilà, donc on aura le volume 1 et le volume 2, le volume 1 de The Devil of the Gods, le volume 7 de Tokyo Revengers et le volume 1 de Windfighters. Aux éditions Kazé, on aura la sortie du volume 14 de Beyblade Burst, le volume 7 de Check Me Up qui sera le dernier tome de la série, et on aura le volume 12 de Platinum End. Aux éditions Kana, on aura le volume 4 de Come To Me Wedding, le volume 3 de Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon, le volume 3 de L'Imprimerie des Sorcières et le volume 24 de Poison School. Aux éditions Panini, on aura le volume 8 de Demon Slayer, le volume 15 de Coco Début qui sera le dernier tome de la série, et le volume 13 de Senseiya épisode G Assassin. Aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 5 de La Destinée de Yuki, le volume 12 de Make Me Up, le volume 4 de Nun, le volume 11 de Stranger Case et le volume 1 de Swimming Ace. Aux éditions Casterman, on aura la sortie du volume 1 de Quartier Lointain, l'édition Poche, et aux éditions H2T, ça sera la sortie du volume 1 de Wandering Souls. Pour jeudi 18 juin, ensuite aux éditions Kurokawa, on aura le volume 5 de Basilisk The Oka Ninja Scrolls, le volume 4 de Goblin Slayer Year One, le volume 8 de Goblin Slayer, le volume 6 de Kemono Incidents, le volume 11 de Moi quand je me réincarne en Slim, le volume 20 de One Punch Man, le volume 1 de Schwartz Ragnarok et le volume 2 de Transparente. Aux éditions Kiyun, on aura le volume 4 de BL Métamorphose, le volume 8 de Isaac, le volume 23 de Carnaval, le volume 2 des Temps Retrouvés et le volume 2 de The Killer Inside. Aux éditions Le Lézard Noir, on aura le volume 1 de Incandescence et le volume 2 de Zenka Mono. Et les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 19 juin avec chez Ototo le volume 8 de Danmachi, La Légende des Familias, le volume 1 de Made in Abyss Official Anthology, le volume 8 de Mayball Feminine Football Team, le volume 1 de Rascal Does Not Dream of Little Devil Kohai et le volume 5 de Ultramarine Magmel. La dernière sortie de la semaine, ça sera aux éditions Ankama avec le volume 1 de Radiant, l'édition spéciale 15 ans. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, un peu de Vocaloid. Ouais, vous êtes tous contents. C'est Close to You de Lily et on viendra juste après pour parler culture au Japon. Mama Donc c'était Lily avec la chanson Close to You. On passe maintenant à la partie culture. On va partir donc au Japon. Des employés de bureau au Japon continuaient de se rendre au travail malgré l'état d'urgence déclaré dans une partie du pays en raison du coronavirus. La raison, un petit tampon traditionnel qui marque moult documents d'un petit sceau rouge. Alors, si le télétravail s'était largement répandu face à la pandémie, le recours au Hanko pour signer des contrats, approuver des propositions et vérifier qui a pris connaissance de tel ou tel document mettait encore matin et soir nombre de salariés dans des métros et trains de banlieue. Unique pour chaque personne et entreprise, il est généralement cylindrique avec une surface ancrée pas plus grande qu'un ongle. Donc pour des raisons de sécurité, le Hanko d'une entreprise ne doit pas être emporté à l'extérieur. Donc je devais être physiquement présente au bureau, car il me fallait soumettre des documents papier et les tamponner, expliquait à l'AFP Mizuho, qui travaille dans une société de technologie de l'information. Bien que son employeur soit dans un secteur au fait des nouvelles technologies, le Hanko demeure chez lui la norme, ajoutait Mizuho. Nous utilisons les logiciels de Microsoft comme outil de communication, mais je ne pourrai pas travailler depuis chez moi tant que la culture du Hanko existera. Je ressens une pression non dite me poussant à être au bureau, ajoutait-elle. La plupart des adultes japonais disposent de leur propre sceau marqué de leur nom en caractère chinois et utilisé en guise de signature pour authentifier une multitude de documents, de l'ouverture d'un compte bancaire à la réception de courriers recommandés. D'importantes entreprises, dont de grandes banques, ont commencé à faire progressivement disparaître cette pratique, mais elle reste bien ancrée dans la troisième économie du monde, tout comme d'autres habitudes qui semblent archaïques dans les autres puissances économiques. Donc on a par exemple l'utilisation massive de la télécopie et la préférence du document papier. Selon une enquête de la Japan Association for Chief Financial Officers, la JACFO, ou l'Association japonaise des directeurs financiers, donc c'est un centre de recherche. D'après cette enquête, 40% des entreprises ayant introduit le télétravail indiquaient que des salariés continuaient à se rendre au bureau, principalement pour traiter des documents papier et faire usage du Hanko. Il existe une culture conservatrice, un refus des entreprises de changer leur manière de travailler, explique Hiroshi Yaguchi de JACFO. Bien que le nombre de sociétés qui passent aux documents numériques augmente, il faudrait qu'elles aillent plus loin en introduisant les conférences en ligne pour faciliter le télétravail, estime-t-il. Le nombre de passagers dans les métros et trains de Tokyo, habituellement bondés aux heures de pointe, avait fortement chuté, mais Yumi, employée d'une compagnie d'assurance, assurait que le télétravail était impossible pour elle et ses collègues. « Dans mon entreprise, tout le monde vient, nos clients remplissent des demandes d'assurance et il est donc difficile pour nous de travailler à la maison », racontait-elle. Elle s'est forcée d'être prudente dans le train en choisissant les wagons qui semblaient les moins pleins. Et l'agence de Yuki, une agence de voyage, utilise au contraire principalement des documents électroniques ainsi qu'un Hanko numérique. En un clic, j'appose le sceau numérique sur les documents, c'est facile, mais toutes les données ne sont pas accessibles à distance et il lui fallait quand même se rendre plusieurs fois par semaine sur place. Les Japonais sont travailleurs et si on ne les empêche pas d'aller au travail, eh bien ils continuent d'y aller. Voilà. Alors, c'est tout pour cette petite partie culture. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, The Love I Committed de Lim Chung-jun. Et on reviendra juste après pour parler du manga Desperate House Cat & Co.
속에서 커져만 갔던 너를 조금씩 나도 지우려 해 사랑해 라고 말하고 싶었지만 늘 미안하다고만 했던
C'était Lim Chung Jun avec la chanson The Love I Committed. On passe maintenant à la présentation du manga Desperate Housecat & Co. du titre original Yotabanashi. Alors c'est un shoujo de genre comédie tranche de vie qui a été écrit par Arai Rie et prépublié dans le Betsu Komi. La version japonaise est parue en 2012 aux éditions Shogakukan avec un total de 5 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue le 30 juin 2016 aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck, avec pour le moment 3 tomes de sortie. Vous pourrez retrouver Desperate Housecat & Co. dans le commerce pour un prix de 6,95€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus, et il n'existe pas d'adaptation en animé. Alors, le résumé de cette série, deux neuves chattes de gouttière bien portantes et expérimentées portent un regard désabusé sur le monde qui l'entoure et plus encore sur la futilité humaine. Enfin ça, c'est quand elle ne se laisse pas amadouer par le beau gosse qui lui tourne toujours autour. Cette chatte sexy succombera-t-elle à son prétendant ? Yuka, elle, est une jeune épouse aussi mignonne que naïve qui doit subir jour après jour les affres de sa psychorigide belle-mère, à moins que ce ne soit l'inverse et que ce soit la belle-maman qui finisse par péter un câble face à l'aspect faussement ingénu de sa belle-fille. De son côté, la douce Sasami ne rêve que d'une relation parfaite avec son petit ami Yukio, mais son idylle amoureuse est constamment mise à mal par une véritable menace pour son couple, Pichu, le pigeon domestique de Yukio, dont il est complètement gaga. Déjà, quelle idée d'avoir un pigeon domestique, j'ai envie de vous dire. Quel avenir pour cette vie à trois ? Enfin, j'ai oublié une phrase. Une créature du diable, donc, évidemment, qui semble vouloir picorer tout ce que porte la terre, y compris le visage de Sasami. Quel avenir donc pour cette vie à trois ? Enfin, quel est cet homme verdâtre se promenant nu en ville, marquant les passants plus par sa beauté que par le fait qu'il ait le concombre à l'air et soit tout vert ? Voilà quelques-uns des personnages à retrouver dans ce manga complètement what the fuck. Donc Desperate Housecat & Co. à retrouver aux éditions Akata avec pour le moment 3 tomes. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Alone de Lim Jae-won et on reviendra juste après pour une actualité au Japon.
Oh, 잠시 네 곁에 가까이 널 보고 있으면 내게 아무것도 해줄 수 없단 게 내 맘이 너무 아파 오늘 하루라도 너를 갖고 싶어 내가 얼마나 사랑하는지
avec la chanson Alone. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Le câlin n'est pas le geste modèle dans cette période de crise sanitaire et de distanciation physique. Attention, hein, je vais en parler, mais ne faites pas de câlin aux gens. Cependant, une équipe de chercheurs à l'université Tōhō à Tokyo a cherché la recette du câlin parfait pour les nourrissons. En mesurant l'effet apaisant de câlins prodigués par des parents à leurs enfants en bas âge, en prenant en compte des degrés d'intensité différents. Ils ont ensuite réalisé les mêmes tests avec des personnes inconnues des bébés afin de comparer les résultats à ceux obtenus avec leurs parents. Les résultats de l'expérience ont permis aux chercheurs de conclure que le câlin parfait devait provenir d'un parent et ne pas être trop serré. Alors, les chercheurs ont étudié le rythme cardiaque de l'enfant et la pression dans les mains des adultes via des capteurs. Je l'ai déjà dit. Alors, autant pour moi, hein, j'ai du mal, parce que, ok, j'ai du mal, mais... mes feuilles sont imprimées avec très peu d'encre, donc du coup, je suis un peu perdue. Alors, ils ont donc pu comparer les réactions du bébé lorsqu'il les était simplement tenu, lors d'un câlin avec une pression moyenne ou lorsqu'ils étaient serrés fort. L'étude publiée dans la revue scientifique Cell montre que les bébés sont plus apaisés par un câlin à pression moyenne qu'en étant simplement tenu, alors que l'effet apaisant diminue durant un câlin dit serré. Forcément, quand on vous écrase, je ne sais pas si c'est très apaisant, hein. Durant l'expérience, les câlins duraient 20 secondes maximum. Les scientifiques avaient en effet anticipé en estimant qu'il était quasiment impossible d'éviter les sautes d'humeur d'un enfant durant un câlin d'une minute ou plus. De plus, sans grande surprise, les nourrissons de plus de 125 jours étaient plus apaisés si le câlin venait d'un parent plutôt que d'une femme inconnue. C'est logique, hein. Câliner son bébé fait aussi du bien aux parents qui ont montré des signes d'apaisement visibles lors des tests de l'étude. Lorsqu'une personne prend une autre dans ses bras, son corps sécrète une hormone, l'ocytocine, surnommée l'hormone du bonheur, qui procure un sentiment de bien-être. Cependant, les chercheurs assurent que la durée des câlins durant leurs tests était trop courte pour que cette hormone ait pu jouer un rôle. Selon eux, leur étude est la première à avoir pu mesurer l'effet physiologique d'un câlin avec un bébé. Ils estiment qu'elle pourra aider à faire progresser les connaissances sur le lien parent-enfant, ainsi que sur la psychologie infantile. Voilà. On va pouvoir tout de suite écouter une autre chanson, Imasugu Kiss Me, la version New Mix de Lindbergh. Et on viendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale. C'était Lindbergh avec la chanson Imasugu Kiss Me, la version New Mix. On va maintenant finir l'émission avec une petite news musicale. Triste nouvelle pour les femmes du groupe Wings. Après plus de 19 ans passés au sein du trio, un des rappeurs, Ryuichi Ogata, a annoncé son départ le 31 mai dernier. Le rappeur a décidé de quitter son groupe ainsi que l'industrie du divertissement à cause d'un trouble de l'anxiété psychophysiologique. Donc Wings poursuivra ses activités en duo. Son agence Rising Production s'est exprimée à ce sujet, dont je cite « Merci d'avoir toujours supporté Wins. Ce 31 mai, Ryuichi Ogata a quitté le groupe. Nous avons décidé de mettre fin au contrat le reliant à Rising Production. Ryuhei Chiba et Keita Tachibana continueront leurs activités au sein de Wins. Ryuichi Ogata ressent une anxiété extrême depuis plusieurs années et suite aux traitements médicaux dans des instituts, il a été diagnostiqué avec un trouble psychosomatique à cause de son stress psychosocial. » Suite à cela, il nous a fait part de son envie de quitter Wins, ainsi que son agence, et s'occuper de soigner son esprit et son corps. Suite à de nombreuses discussions, nous respectons sa décision forte. Nous avons décidé qu'un traitement professionnel et sa santé constituaient la première des priorités, et nous sommes arrivés à cette conclusion. Cette décision intervient juste après avoir célébré le 19e anniversaire des débuts de Wins. À tous les fans qui ont supporté le groupe et qui l'ont regardé grandir jusqu'ici, nous sommes désolés de faire un communiqué si décevant. Nous nous excusons aussi sincèrement pour les inconvénients que cela pourrait causer. Grâce à tous les fans présents jusqu'ici et en espérant qu'un jour le trio pourra de nouveau se produire sur scène, Ryohei Chiba et Keita Tachibana continueront à remercier tout le monde pour toutes ces années ainsi que donc ils continueront aussi leurs activités musicales. Nous apprécions sincèrement votre support sans faille pour Wins et Ryuichi Ogata. Donc le groupe a sorti son 42e single Do You le 22 janvier dernier, faisant désormais office d'ultime sortie en compagnie de Ryuichi Ogata. Voilà, et donc pour terminer l'émission, on s'écoutera Ameato de Wins, qui est servi de 8e ending pour l'anime Katekyo Hitman Reborn. Demain matin, vous retrouverez Roland pour l'émission Bonjour de 10h à 11h30. Alors, moi, toujours peut-être, vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek, sinon sans faute, ça sera lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
Rainy day, rainy day. 世話しないで。